bien donc table ovale sans ellipse, comme une fois par mois. Table ovale parce que à CFM, la table est ovale, et surtout elle n'est ni ronde ni carrée, sans ellipse, parce que j'espère que mes invités, les représentants locaux des partis politiques nationaux, parleront sans avoir recours à cette forme d'ellipse. Et ce soir, donc, c'est avec, je le donne dans l'ordre, l'ordre mystérieux d'ailleurs qu'utilise Geneviève pour m'indiquer les invités, parce que ça n'est ni alphabétique, ni juste, mais donc Jean-Louis Calmette pour les Verts, Lionel Lacroix pour le Parti Socialiste, Angelo Andreotti pour le Parti Communiste, Serge Roch pour l'UMP et Jean-Louis Cancet pour le Modem et Francis Martin pour le PRG. Et notre sujet de ce soir, ce sont les transports ferroviaires. Les transports ferroviaires parce que puisque je transmets à la demande de mes participants, je leur transmets un sujet un peu à l'avance, ce qui fait que c'est parfois un peu décalé par rapport à l'actualité aussi d'ailleurs. Mais quand j'ai transmis le sujet, des élus de Gourdon passaient devant les tribunaux pour avoir perturbé le trafic ferroviaire. Effectivement, ils m'avait valu un jour d'être transporté en car de Cahors à Brive. Ça avait été presque aussi rapide que par le train, d'ailleurs, si ce n'est qu'on nous avait donné aucune indication. On avait compris par les voyageurs qui descendaient en provenance de Toulouse qu'on allait prendre un car. Mais on nous avait rien indiqué, mais ça a très bien marché. Il n'y avait rien à dire à ça. Et j'observe que je suis rentré de Paris hier soir et que le train s'est arrêté à Gourdon. Donc déjà, la première question, c'est est-ce que ce type de manifestation, à votre avis, après on va voir comment s'organisent les chemins de fer en France désormais, mais est-ce que ce type de manifestation a une efficacité et est-ce qu'elle est plus efficace ou moins efficace parce que des élus s'en mêlent? Et c'est comme on veut, hein, voilà, ben le Parti Socialiste.
Le travail que peuvent faire d'abord les usagers est important, on l'a vu sur la région Midi-Pyrénées avec l'association des usagers du rail qui sont constitués en association depuis 98 et qui font vraiment de la pédagogie dans les rames auprès des usagers. Quant aux élus, s'ils en viennent à des méthodes comme ça, je crois qu'il y a une exaspération notamment sur Gourdon. La SNCF a supprimé 15 des 45 arrêts hebdomadaires à Gourdon et à Souillac, donc il y a vraiment une exaspération. Et si les usagers avec les élus se mobilisent, on peut espérer qu'au niveau de la direction des autorités compétentes, on arrive vraiment à faire comprendre que dans nos territoires ruraux, il faut garder des transports, parce que sans transport, sans rail, sans route, sans tout ça, on ne peut pas faire vivre nos territoires et on ne peut pas vivre, parce que c'est très difficile de pouvoir circuler quand on a tous les matins à faire des trajets, ou quand on veut bien sûr aller à Paris ou ailleurs, on a besoin de ces services publics-là.
Alors, il y avait une petite malice quand même dans ma question, parce que Gourdon n'est pas si loin que ça de Villefranche, et j'avais cru comprendre que la fréquentation de la gare de Villefranche avait connu également quelques avatars. Monsieur Roch.
Encore qu'il faut, bien regarder ça de près. Savez-vous que à la gare de Villefranche, précisément, à certains moments, il n'y a jamais eu autant de voyageurs que ces derniers mois. Et notamment avec les transports pour les étudiants en week-end, en fin de week-end ou en début de semaine, et c'est là où on a parfois quelques problèmes pour comprendre comment fonctionne la SNCF. Mais il y a des jours où il n'y a pas assez de wagons et on est obligé d'appeler un autobus pour prendre la totalité des voyageurs qui sont sur le quai. Mais il faut bien suivre ça de près. C'est vrai qu'il y a des problèmes sur les trains de nuit, mais sur les trains régionaux, il y a une fréquentation qui est plus importante actuellement que ce qu'elle était il y a quelques années. Et c'est ce qui doit nous rassurer. Alors, parce que moi, je crois que le train, c'est à la fois le passé. Bon, ça a été le transport du 19e siècle, mais c'est à la fois l'avenir, que c'est un système de transport qui est adapté au temps moderne, au moment où on veut préserver l'environnement, où on veut augmenter la sécurité, où on veut lutter contre les gaz à effet de serre. Eh bien, le gaz est bien placé, et le train est bien placé et présente des avantages que ne présente pas la circulation automobile. Donc je crois que le train a un grand avenir, mais il faut que les pouvoirs publics accompagnent cela et que la SNCF se réforme aussi, un petit peu évolue. Moi j'ai connu quand même une époque où le rideau du guichet à la gare de Villefranche se fermait 3 minutes, vous entendez bien, 3 minutes avant que les voyageurs arrivent en gare. Et c'était les employés de la gare ici qui me l'avaient signalé, et de telle sorte que j'ai pu faire une intervention au niveau de la direction régionale à Toulouse pour dire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez fermer cette gare ou quoi? Si vous la fermez, vous y prendriez pas autrement. C'était un accueil déplorable de voir un rideau fermé à l'accueil des voyageurs. Donc, si la SNCF est capable d'évoluer, et je pense qu'elle l'est, c'est une grande maison et qui a eu d'autres défis devant elle, et c'est une des réussites françaises avec le TGV, etc., eh bien, le train peut avoir en France un grand avenir. Alors, ceci dit, il y a des difficultés actuelles qu'il faut surmonter. Les élus, lorsqu'ils en viennent à ce type de manifestation, le font parce qu'ils se heurtent à une incompréhension, à un mur, et je pense que quand les élus manifestent comme cela, c'est une valeur ajoutée. Bien sûr, s'ils étaient seuls, ça pèserait peut-être pas beaucoup, mais à partir du moment où il y a la population et les élus, les deux ensemble, c'est de nature à faire réfléchir les autorités publiques et les autorités de la SNCF elle-même.
Alors, Monsieur Roch, à plusieurs reprises, vous avez parlé de la SNCF, mais moi, j'avais cru comprendre que désormais, il y avait Réseau Ferré de France, dont je connais d'ailleurs pas le statut, on va sans doute pouvoir autour de cette table m'éclairer sur le statut de ce Réseau Ferré de France, et puis qu'il y avait, utilisant ce réseau, des transporteurs privés et mis en concurrence, et n'y aurait-il toujours que la SNCF, monsieur Andréotti?
Actuellement, si vous voulez, nous sommes dans une logique d'éclatement de la SNCF, que d'ailleurs impulse des directives européennes, que je ne vous lirai pas, mais qui sont sous la main. Donc il y a une logique d'éclatement. Le gouvernement et la direction de la SNCF criminalisent l'action. Et tout cela pour quelques minutes d'arrêt. C'est très grave. Nous sommes dans une régression de la démocratie extrêmement préoccupante. Alors pour les transports, pour en revenir là, c'est une logique d'éclatement. Et Réseau Ferré de France est né parce que on a jugé, enfin le gouvernement de l'époque avait jugé que l'endettement atteint par la SNCF, l'exploitation, était plus facile à régler le problème en séparant la gestion des infrastructures, la gestion commerciale et les infrastructures. Or, nous apercevons que ça ne règle rien, bien sûr que ce n'était pas la solution. Et bon, tous les syndicalistes qui se sont préoccupés, disons, de faire avancer d'autres propositions, que j'ai là, nombreuses, de la CGT d'ailleurs, n'ont rencontré devant eux qu'un certain nombre de blocages. Alors moi, je vais faire juste une parenthèse, en effet, parce qu'on en parle sans en parler. Des élus sont traînés devant les tribunaux pour avoir simplement informé les usagers, les passagers, les citoyens de ce qui est finalement un démaillage du territoire. J'ai là la carte de France des gares de fret supprimées. Ensuite, après les gares de fret, ce sont les gares de wagons isolés. Et wagon isolé, quand il sera plus possible de circuler avec un wagon isolé, il y en a 11 en Aveyron de ces gares. Ensuite, ce sera plus de gare du tout. Et voilà. Donc, il est certain qu'il y a une autre logique à chercher à un moment où on privatise les autoroutes et c'est tout le tout routier qui l'emporte.
Alors, ce que je trouve, on est en train d'empiéter sur ce que j'aurais voulu en deuxième partie, mais on dit on privatise les autoroutes. Et apparemment...
Pas d'aujourd'hui, il y a un moment que...
Pas d'aujourd'hui.
Je veux dire, et c'est pas uniquement en France, dans tous les pays d'Europe. Mais bon,
Apparemment, on n'a pas de difficulté à privatiser les autoroutes. Je veux dire par là que je n'ai pas, mais peut-être je suis mal informé, hein, mais je n'ai pas entendu dire que les autoroutes demandaient aux collectivités locales de les financer. Apparemment, les autoroutes, on leur donne une concession, on en pense ce qu'on veut, ils ont un tarif, ils font payer, et puis ils se débrouillent comme ça pour faire leur investissement. Et apparemment, ça a l'air d'être très différent avec avec le rail, puisque j'ai entendu le président de région il y a quelques temps, expliquer qu'on lui demandait des sommes, il avait du mal à trouver le qualificatif, et moi encore plus, parce que les chiffres qu'il a donnés étaient monstrueux, et qu'on lui demandait des sommes pour participer à la réalisation du TGV entre Angoulême et Bordeaux. Qu'est-ce que ça sera quand ça sera entre Bordeaux et Toulouse? Alors, est-ce que c'est, pourquoi diable, les autoroutes parviennent à être financées par leurs usagers et pas le rail?
Ah ben là, je crois que vous posez une question extrêmement sensible. Il ne faut pas confondre la route, qui est du domaine privé, et la SNCF, qui a une mission importante de service public. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce qui se passe au niveau de la route, c'est que évidemment, on a tout un tas de lobbies qui ont trouvé que la route était extrêmement rentable, les autoroutes en particulier, ce qui fait que on n'a pas besoin de trouver de l'argent public pour faire des autoroutes, parce que le gain final est énorme. La rentabilité d'une autoroute est extraordinaire. Ça, c'est démontré. Ensuite, la SNCF, qui devrait avoir une mission de service public, qui ne l'a plus. On voit ce qui se passe dans nos gares, qui étaient fermées. Bon, il y a un petit redressement qui est effectué actuellement, du fait que toutes les dessertes locales sont prises en main par les conseils régionaux. Et heureusement, sinon, toutes les gares dans toute la France étaient fermées et il y a belle lurette. Il faut donc que ce soit les collectivités locales qui payent, c'est-à-dire notre argent, notre impôt, nos impôts, qui payent l'entretien, la réfection des voies, la réfection des gares. La SNCF, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se contente de donner ou de prêter, parce qu'encore là, il faut payer une location, les chauffeurs de la SNCF. Tout le reste, ça rentre dans le domaine public, sauf le TGV, qui lui est extrêmement rentable.
S'il est rentable, alors on ne devrait pas avoir besoin de payer les lignes.
Et qui évidemment, le TGV est subventionné par l'État. Alors, c'est quand même un monde extraordinaire que la SNCF n'arrive pas à assumer sa mission de service public. C'est le particulier, enfin les impôts des particuliers qui sont obligés d'entretenir toutes les voies. Il faut que les conseils régionaux payent les TER, payent la réfection des voies, payent quand c'est électrifié, payent l'entretien du réseau électrique. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas normal. On n'a plus une SNCF à caractère public. On a d'un côté une SNCF à caractère privé avec les TGV, et de l'autre côté une SNCF entre guillemets qui fonctionne avec les subsides des conseils régionaux.
Alors, puisqu'on a réseau ferré, on en a parlé, on en reparlera. J'ai pas eu vraiment d'ailleurs ma réponse pour savoir pourquoi une autoroute était rentable et pas une ligne de TGV, puisqu'apparemment elle est pas rentable, puisqu'il faut la payer.
La ligne de TGV est rentable, sauf que quand on fait l'équilibre avec les petites lignes qui sont déficitaires, le budget général de la SNCF, il est pas tant que ça bénéficiaire. Après, M. Martin parlait de la réfection des voies. Normalement, la compétence de la rénovation, l'entretien des voies, c'est une compétence d'État. Sauf que les régions comme la région Midi-Pyrénées, pour faire circuler les nombreux autovéhicules qu'ils achètent, ont été obligés de faire des plans pour rénover toutes les petites voies. Et ça coûte cher, il faut faire des travaux. Et le plan rail adopté par la région Midi-Pyrénées 2008-2013, c'est deux fois le coût du viaduc de Millau. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'État se désengage parce qu'il n'y a pas de volonté politique d'agir sur les trains régionaux et sur les trains de nuit, parce que faut qu'on se le dise. Bien sûr, il y a la question du TGV sur certaines parties de la région, sauf que nous, en Aveyron, ce qui nous concerne surtout, c'est les TER, dont la fréquentation augmente, mais c'est aussi les trains de nuit. Et c'est sur ça qu'il faut exiger à la SNC, à l'État, de reprendre sa compétence et d'investir massivement de l'argent.
Alors, aucun d'entre vous ne répond à ma question. Peut-être que vous allez y répondre. Mais les collectivités locales aient à financer les transports locaux. Bon, on peut déjà s'interroger, vous êtes largement interrogé. Mais j'avoue, je continue à trouver inexplicable qu'on demande des sommes astronomiques à des collectivités locales pour construire un outil qui va être rentable, ou alors il ne l'est pas. Et en plus, on nous demande une somme, je ne l'ai plus en tête, mais je sais que c'était à tomber par terre, pour équiper le TGV entre Angoulême et Bordeaux.
Eh bien, vous trouvez ça normal? Moi, non.
Mais
c'est pas normal du tout.
Mais pour ça,
attendez,
que je m'interroge.
Attendez, c'est pas normal du tout. Monsieur Lacroix vient de nous le dire.
Ce que je crois, c'est que ce qu'il y a dessous, c'est que une opération comme le TGV, même Angoulême ailleurs, ça sera pas rentable demain. Les autoroutes, dès qu'elles ont été privatisées, c'est de suite l'argent rentre dedans. Sauf que pour investir sur le TGV, c'est quand même des sommes importantes et que.
Colossales.
Et qu'aujourd'hui, les entreprises, même les entreprises publiques comme SNCF ou la Poste, sont en train de raisonner de plus en plus comme des entreprises privées.
Est-ce que vous trouvez normal qu'on demande aux collectivités locales de la réfection de la RN 88 de l'Aveyron, hein, de la faire passer en deux fois deux voies? C'est une route nationale, avec normalement des fonds nationaux. Mais non, l'État ne veut pas payer, donc on demande aux collectivités locales, le département et la région, de payer. Non, c'est pas normal. Il faut que chacun reste à sa place. L'État ne vient pas subventionner les routes départementales de l'Aveyron. Hein.
Non, mais ce sur quoi j'insiste, c'est que la RN 88, elle n'est pas à péage. Alors, mettons que... Mais on paye un billet pour aller dans le TGV.
Oui. Oui. Moi, les autoroutes, je ne vais pas les défendre quand même, mais il me semble me rappeler que lorsqu'elles ont été construites, et certaines ont 40, même peut-être 50 ans, c'était une concession de 20 ou 30 ans, et après, elle devait être toute gratuite. Sauf qu'il n'y a pas une autoroute qui est particulièrement gratuite. Mais bon, je ne vais pas quand même défendre les autoroutes. Et concernant le TGV, avec les sommes astronomiques qu'on demande aux collectivités locales, moi je trouve qu'il y a quand même une forte injustice, parce que quand le TGV, par exemple, le TGV Lyon-Marseille a été construit, les collectivités locales n'ont pas eu à verser un seul centime. C'est l'État qui a participé avec la SNCF. Donc je trouve ça totalement injuste.
Oui, je veux dire, l'État ont changé, l'État, on peut s'en le déplorer, mais l'État est ruiné. Hein.
Ah, ça dépend pour qui, monsieur.
Ça dépend pour qui, monsieur.
Ah non, c'est pas vrai, je
ne
suis pas d'accord avec vous, monsieur Roch, certainement pas.
Mais peut-être, mais...
On donne des dizaines, des centaines de milliards aux banques, oui, mais on
leur donne pas, puisqu'il faut qu'il y a un prêt à 9%, il faut qu'ils le rendent.
Non,
écoutez, vous pouvez ne pas être d'accord, mais regardez les... L'État français, quand même, depuis 1981, construit chaque année des budgets en déficit, que ce soit la gauche ou la droite au pouvoir, en déficit. Et vous imaginez que c'est normal. Un budget dans un État, il doit être équilibré. On peut tolérer un excédent en quelques années, mais à condition que l'année d'après, on couvre le déficit. Mais pendant 30 ans, un déficit chaque année, cette année ça va être 50 milliards d'euros, mais que voulez-vous, si vous trouvez que l'État français est riche, mais de toute façon c'est quelque chose chose qui s'est fait progressivement. Regardez, par exemple, le viaduc de Millau. Le viaduc de Millau, il était prévu qu'il soit sur fonds publics. Et c'est un ministre communiste, je vous rappelle, communiste, qui a décidé que le viaduc de Millau serait un viaduc à péage. Et si, c'était...
Vous oubliez l'incurie de la gestion qui a conduit à cette décision. Je vous laisse finir, monsieur.
Oui, oui, mais enfin, le fait est là. On est là pour débattre.
Vous êtes
Mais le fait est là. Le viaduc de Millau, lorsque le projet a été prévu,
parce
il y a déjà quelques années,
financé,
c'était prévu sur une autoroute.
Il a fallu réagir.
Sur une autoroute qui est publique. La 75, elle n'est pas à péage. Hein. Et il y a juste le viaduc de Millau qui est à péage. Et c'est une décision d'un ministre communiste. On dit que l'argent est parti dans l'Anne, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, dans l'Aveyron, il y a eu un péage pour construire ce viaduc, ce qui n'était pas prévu au départ. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, l'État était en capacité de réaliser tout ça sur fonds publics. Et puis, plus les années passent, et moins il a d'argent, et plus il est obligé de faire appel aux privés et aux collectivités locales. Ceci dit, c'est aussi une conséquence de la décentralisation. On ne peut pas vouloir à la fois la décentralisation et dire l'État continue à payer. Parce que malgré tout, ça s'est passé.
Ça s'est passé
déjà pour les lycées antérieurement. Pour les collèges, demander, les collèges c'est le département, les lycées c'est la région, demander à toutes les régions, demander à tous les départements, ils vous diront que depuis que ça a été décentralisé, depuis que c'est sur fonds départementaux ou régionaux, eh bien les collectivités en question mettent beaucoup plus d'argent que ce qui mettait l'État actuellement. Hein, et pareil pour les routes, parce que là actuellement il reste peu de routes nationales en Aveyron, à part la 88 il reste plus grand chose. Mais il y a 30 ans il y en avait, ici on n'a pas, à Villefranche vous n'avez pas un seul kilomètre de route nationale. Mais ça n'a pas toujours été le cas, il y a 30 ans, entre Rodez et Villefranche, et Villefranche et Millau, c'était des routes nationales. Ça a été déjà à l'époque mis sur le dos du département. L'État a donné quand même, l'État donne toujours quelque chose, l'accompagnement. Mais ce n'est pas naturellement ce qu'y mettent ensuite les collectivités. Mais je veux dire, cette affaire-là, où l'État transfère sur les collectivités des charges, c'est pas d'aujourd'hui. C'est une longue histoire.
C'est pas d'aujourd'hui, mais vous savez très bien que les budgets sont pas équilibrés, qu'on donne pas.
Mais ce que je vous dis, les routes, il y a 40 ans, les routes nationales qui ont été transférées il y a 40 ans, l'État n'a pas donné la somme qu'y met le département actuellement. Et c'est comme ça.
Sauf que là, on arrive à une situation où les collectivités sont de plus en plus asphyxiées et c'est de plus en plus difficile. Alors, aujourd'hui, sur Midi-Pyrénées, si la région ne finançait pas la rénovation des voies alors que c'est pas de sa compétence, eh bien on n'aurait plus de trains qui circuleraient sur l'Aveyron.
Donc, la gare de Villefranche ne servirait à rien.
Quand on sort l'argument qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, faudrait peut-être regarder un peu de plus près, parce qu'il y a des choix qui sont faits au niveau national. On ne va pas revenir sur le paquet fiscal, mais c'est 15 milliards d'euros à des privilégiés. Donc,
l'État
n'a pas l'argent.
Les heures supplémentaires, c'est les privilégiés.
Il y a toujours un double discours de l'UMP qui dit on a de l'argent pour certains et pour d'autres, on n'a pas d'argent. Sauf que les jeunes dont vous parlez
qui prennent le train. D'un État ruiné et d'abord la dette
c'est des choses qu'il faut pas dire la politique c'est bien un problème qu'on a en France, c'est de dire au moins la vérité. On est peut-être pas d'accord sur les causes ni même sur les remèdes, mais au moins disons la vérité aux Français et de dire aux Français que les caisses de l'État sont pleines et que l'État si on fait le résumé de toutes les émissions qui nous rassemblent, vous savez c'est demain vous faites une émission sur l'éducation, on vous dira mais il faut que l'État donne plus à l'éducation. Vous faites demain quelque chose sur l'agriculture, on vous dira l'État doit mettre plus sur l'agriculture, etc. Mais je vous assure qu'on est dans une situation où ce discours ne repose pas sur la réalité.
Ça ouvre un deuxième débat que je vais ouvrir, qui est celui des impôts locaux. Avant, je voudrais quand même essayer d'en finir, si on peut, avec la rentabilité ou non des investissements de transport. Le tunnel sous la Manche, ça n'a pas été une brillante réussite financière, mais ça n'est pas une collectivité locale qui l'a financé, que je sache. Ce sont des privés qui ont espéré en tirer une rentabilité. Ils ont été un peu déçus, mais enfin bon, ils vont finir, à très long terme, ils vont finir par s'en tirer quand même. Les autoroutes, c'est privé, c'est financé par les usagers. Et le fer, le rail, là, il faut absolument financé par...
Une mission de service public ne peut pas être rentable. C'est une mission de service public. Moi, je pense de déplacer les gens... de les déplacer par rail, mais aussi éventuellement de les déplacer dans des bus. Ce que devrait faire, par exemple, le département, qui ne le fait pas assez. Donc, ça ne peut pas être rentable. On a fait une enquête des Casseville. Lorsqu'on a mis notre service de transport urbain en place, il y a 30% de la population qui n'a aucun moyen de se déplacer. Alors, évidemment qu'il faut faire des infrastructures pour déplacer ces gens-là. Donc, ça ne peut pas être rentable.
Monsieur Andréotti.
Oui, je vais passer par des faits concrets. Cette question de la rentabilité, c'est difficile à de la trancher, parce que de quel point de vue on se place. Premièrement, le transport routier utilise des infrastructures routières qu'il ne finance pas, et on connaît les facilités fiscales qu'ils ont. Et si on fait un calcul intégrant toutes les données, parce que on calcule la rentabilité, de quel point de vue, pour qui, c'est comme pour la dette. L'État est endetté envers qui? Envers le système financier international, on achète et on vend de la dette. Le système pousse les États à s'endetter et l'État pousse les particuliers à s'endetter actuellement. Assez d'hypocrisie. Deuxièmement, je veux prendre un cas concret. Tout près d'ici, un chef d'entreprise dans la vallée entre Figeac et Aurillac voit la fermeture donc de ce transport de marchandises de palettes de bois. Ce sont des camions qui vont y passer dans une route sinueuse avec les risques pour la circulation. Alors, qu'est-ce que c'est la rentabilité dans ce cas-là? C'est un débat truqué. Moi, je regarde l'intérêt à la fois de l'économie, de l'environnement. Je vois les choix qui sont aberrants à tout point de vue, que ce soit financier, que ce soit social, environnemental ou autre.
Alors, je voudrais donner un petit mot. Qu'est-ce que c'est que le service public? Le service public, c'est une péréquation des dépenses et des recettes pour que tout le monde soit servi sur le même pied d'égalité. C'est ça, le service public. Or, actuellement, la SNCF se gave avec le TGV, mais elle ne répartit pas l'argent sur les petites lignes. Et ça, c'est honteux. Ça, c'est un abandon pur et simple de la mission de service public. Puisque l'argent du TGV ne va pas donc sur les petites lignes, qui sont laissées à l'abandon, donc reprises par les conseils généraux, qui eux font de la mission de service public. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas le rôle de conseils régionaux de s'occuper du rail. Hein. Ce n'est pas son rôle.
Alors, je ne sais pas si c'est leur rôle, mais ce qui me... À vous entendre, et puis alors là, les
uns... C'est partie des choses qu'ils auraient acceptées, ah ben, sur lesquelles il y a un contrat qui a été signé.
Contraint et forcé. Sinon
il
n'y avait plus de rail.
Sinon,
on nous rebat les oreilles en nous disant les chômeurs, il faudra qu'ils aillent travailler à 30, 50, 100 kilomètres. Ils vont se déplacer comment? Je sais bien qu'il y a des marchands de chaussures qui ne sont pas très chers, mais quand même, il faut bien qu'ils trouvent un moyen de se déplacer. Tout le monde n'a pas un véhicule automobile, tout le monde n'a pas une moto, tout le monde n'a pas même un vélo. Il faut avoir les moyens. Ce n'est pas avec 1000 euros par mois pour un foyer qu'on peut se payer une belle voiture.
Oui, mais là, il faudrait s'interroger aussi pourquoi les problèmes concernant le fret. Parce que le fret, ça, c'est important. Et quand on parle d'environnement, il faudrait développer le transport par fret pour qu'il y ait moins de camions sur les routes, autoroutes. Eh bien, il faudrait développer le fret. Le fret, ça s'adresse d'abord aux industriels. Eh bien, c'est eux qui en ont besoin pour transporter leurs marchandises et tous les produits qui font tourner leurs usines. Allez demander aux chefs d'entreprise les difficultés qu'ils ont pour pour utiliser ce moyen de transport. Hein, quand on s'adresse à des industriels, il faut avoir une certaine souplesse dans la réponse. Il faut que l'industriel reçoive sa marchandise au bon moment, qu'il puisse l'expédier au bon moment. Enfin, sinon, c'est son entreprise elle-même qui est pénalisée. Et si les industriels font appel plus aux camions pour leur transport qu'aux fret, c'est qu'il y a une raison aussi. C'est que et c'est là aussi où il faut que la SNCF fonctionne de façon plus souple, de façon à ce que les industriels puissent l'appeler plus souvent.
Alors, c'est une entreprise qui n'est pas souple. Elle est privée ou elle est nationale?
Comment?
C'est la SNCF qui n'est pas souple.
Qu'elle soit en état de répondre.
La SNCF veut tuer le transport ferroviaire. C'est plus grave que ça. Le plus grand transporteur ferroviaire routier, c'est la SNCF, via ses filiales Calverson et autres. Donc, il y a une volonté de tuer le fret ferroviaire par la SNCF et par le gouvernement français. Ça, c'est une volonté politique.
La SNCF ne croit pas au fret.
Et non, les dirigeants de la SNCF, les employés de la SNCF, ils y croient au fret.
Je vous approuve.
Sur la ligne, notre ligne ici, eh bien, vous avez la dernière gare de marchandises, c'était la gare de Villefranche, et qu'elle vient de brûler, malheureusement. Et bien, il n'y en a plus d'autres. Et ils étaient prêts à la vendre.
Il y a eu du sabotage.
Ils étaient prêts à la vendre. Donc, ça veut dire que, il n'y a pas la volonté de la SNCF, c'est de développer le TGV, effectivement. Et si vous allez plus loin, vous apercevez que la SNCF subventionne plus le TGV que nos trains de campagne.
Bien sûr, mais
parce que Paris-Rome en TGV...
Ah ben avec ce qu'elle nous moins... demande, elle peut subventionner
voilà,
le TGV.
Paris-Rome, Paris-Rome en TGV, c'est moins cher que Paris-Najac.
Mais M. Pépi, voilà. qui est donc, directeur de la SNCF, voilà. il fait ce qu'on lui dit.
Oui, oui, mais enfin, il y a une politique aussi.
Non. Bah, alors, on parlait de... Faisons le bilan un peu du Grenelle, parce qu'on a parlé beaucoup du Grenelle.
Oui.
Et sur l'application, on voit bien que le gouvernement français et M. Barlow le premier n'ont pas envie d'investir massivement sur le fret. Il y a 262 gares aujourd'hui en France qui ne peuvent plus recevoir du fret. Alors c'est sûr que si le chef d'entreprise, il faut qu'il fasse 200 km pour amener sa marchandise sur le rail, et bien il ne va pas le faire. Mais aujourd'hui, sur la mise en place du Grenelle, il n'y a pas la volonté
de... demander aux industriels s'ils veulent utiliser la SNCF pour transporter...
Si le gouvernement français n'investit pas sur le fret, c'est sûr qu'ils ne vont pas pouvoir...
Vous savez très bien qu'il y a d'autres raisons. Hein.
Mais
et
non.
Que,
non,
et
non,
si,
il manque de personnel, il manque de matériel. C'est organisé.
Oui, bien sûr.
On a fait de la communication sur le Grenelle, mais quand il faut l'appliquer, il n'y a plus personne.
Vous allez trouver l'argent où. Je veux dire, il faut à un moment donné, on peut rêver, je comprends, pour vous c'est facile, vous êtes dans l'opposition, l'État a qu'à mettre l'argent, l'État a qu'à mettre l'argent, etc. Mais malheureusement, tout ça, c'est un vœu pieux. Hein. Après, quand vous avez...
On verra,
mais bien sûr, vous y reviendrez un jour ou l'autre. C'est la démocratie. Mais on verra à ce moment-là,
les socialistes,
lorsque vous serez aux commandes et lorsque vous serez à la charge,
vous allez vous laisser le pays, mais ça va être dur.
Vous savez très bien que la majorité, beaucoup de collectivités locales sont dirigés par des socialistes, donc la minorité elle est au niveau national, mais au niveau local, qu'est-ce qu'ils font les socialistes? Ils investissent sur le plan rail Midi-Pyrénées, je l'ai dit, c'est deux fois le prix du viaduc, c'est 700 km créés, deux fois créés,
la région crée. La région Midi-Pyrénées émet un emprunt, quand on sera quand même, il faudra plusieurs générations.
Mais là, il y a une volonté politique.
Non, mais d'accord,
la région Midi-Pyrénées, c'est pas la plus riche de France.
Mais c'est la plus grande et c'est celle donc où elle a géré un espace très important.
C'est là où il y a le plus de travaux à faire
et où il y a le moins de TGV.
Je n'ai pas entendu M. Malvier dire on n'a pas d'argent, donc on ne fait rien, on laisse l'Aveyron ne pas avoir de train. J'ai jamais tenu.
Vous connaissez le plan prévisionnel jusqu'à 2012. Ce sont des chiffres officiels. Monsieur le directeur de la SNCF, Pépi, était dans un grand débat à la fête de l'humanité en septembre 2008. C'est encore un endroit où on débat. Il en manque. Il n'y en a pas partout. Et s'il y en a un, c'est très bien. Alors, ce que je voulais dire, c'est très simple. Dans le plan prévisionnel de 2009 et jusqu'à 2012, ce sont 2600 emplois supprimés. Et ces emplois, dans ces 2600, il y en a 1400 de supprimés dans les frettes. Ensuite, le volume global, ça c'est le responsable militant CGT, il n'est pas si naïf au point de ne pas savoir lire les documents et il participe à des négociations. Il est cadre à la direction du fret SNCF et dans le prévisionnel, on va baisser de 20 milliards de tonnes au kilomètre le transport de fret. Alors qu'on ne vienne pas me dire que ça tombe du ciel, c'est organisé, planifié et c'est conforme aux vœux des directives européennes. Donc je vous fais grâce, mais je puis vous les lire.
Alors, il y a une autre question qui vient quand on vous écoute, c'est que les collectivités, l'État, il s'agit d'un service public, le contribuable doit payer. Mais il semble bien que l'État ne soit plus décidé, apparemment vous êtes tous d'accord, à payer beaucoup. Alors est-ce que ça ne va pas, à court terme maintenant, poser le problème de la nature des impôts locaux ? En termes clairs, est-ce qu'on va pouvoir longtemps avoir ce train de vie-là avec des impôts assis sur la surface du séjour et le nombre de toilettes ? Vous ne battez pas pour répondre.
Non, attendez, moi je vais vous répondre, mais par une galéjade. Vous savez, l'État actuellement, c'est quoi ? L'État, c'est moi, comme dirait M. Nicolas. Je crois qu'en gros, c'est ça. L'État n'existe plus. L'État, comme on l'entend nous, avec ses missions de service public, avec ses préfets, avec ses sous-préfets, avec ses présidents de conseils généraux, avec ses maires, je me demande si ça va aller bien loin. Parce que je vois que l'État... comme je disais tout à l'heure, l'État, c'est M. Sarkozy, point barre. Hein. Vous savez, je viens d'écouter les débats à l'Assemblée nationale.
Il n'y a plus de commissariat au plan, d'ailleurs, monsieur.
Je viens d'écouter les débats à l'Assemblée nationale sur la motion de censure. C'est quand même folklorique, quoi. On sent que même les orateurs de l'UMP, donc de la majorité,
ils font de beaux discours, mais on les sent quand même contraints et forcés. Et ça, c'est, ça me fait pas rire du tout. Hein. Ça me fait pas rire du tout.
Oui, mais vous êtes dans l'opposition, c'est normal que vous parliez comme ça, jusqu'à un certain point. Mais enfin, Nicolas Sarkozy, il a été élu par les Français, je vous rappelle quand même. Bon, et donc il est là.
Aussi.
Et les députés aussi.
Même de l'opposition.
Et absolument, absolument, j'ai jamais dit le contraire. Et donc la majorité et le président de la République, c'est le résultat d'un vote au suffrage universel des Français. Bon, et c'est le résultat qu'a voulu le peuple. Alors, si, quand même. Bon,
plus avec que la propagande. Oui. Et la censure.
Monsieur André Autier, je ne voudrais pas être trop cruel, mais dans les régimes communistes ou ce qu'il en reste, c'est quand même pas tout.
Là, ça,
c'est
non, pas, là, là, faut là, réviser là, beaucoup.
Écoutez, on pourrait parler de Cuba, par exemple, ou de la Chine, qui sont des régimes
officiellement communistes. Je ne vous renvoie pas Pinochet à la figure. Faites-moi grâce.
Je veux dire, nous, on peut parler de démocratie en France, on ne peut pas en parler dans tous les pays. Et on pourrait en parler en Amérique aussi, d'ailleurs. Et ça n'a jamais été dit.
L'assiette des impôts locaux.
Oui, bon, mais revenons à l'assiette des impôts locaux. Mais bon, c'était pour répondre. On est là interactif. Hein. Bon,
Quel besoin avez-vous d'aller toujours vous réfugier à Nurs là. Je me demande, il y a longtemps qu'elle a disparu. Et oui. C'est Poutine, je ne crois pas que la démocratie ait beaucoup progressé.
Non, je crois pas.
Je déteste la polémique.
Je ne crois pas non plus. Non, mais il faut. Tout le monde doit s'incliner devant la démocratie française. Et puis, lorsque Mitterrand était président de la République, il était élu de façon tout à fait légitime. Et de la même façon, Nicolas Sarkozy.
Avant que vous répondiez sur les impôts locaux, parce que ça vous gêne même au niveau
pas du tout. Écoutez,
ce que parlait M. Martin, c'est la séparation des pouvoirs.
Et celle où les impôts sont le moins chers.
Et le Conseil général de l'Aveyron s'engage à augmenter les impôts.
Et oui, écoutez-moi.
Cite M. Luche.
Et oui, écoutez, vous m'interrogez sur les impôts locaux, ce que je gère,
c'est ceux de la ville.
Ceux de la ville de Villefranche-de-Rouergue, c'est la ville, et vous le savez très bien, qui lève le moins d'impôts si on compare à toutes les villes de gauche ou de droite. Vous le savez très bien. Hein. On paye moins d'impôts à Villefranche qu'à Rodez, qu'à Millau, qu'à De Casseville ou qu'à Figeac. C'est comme ça. Bon, donc, et d'ailleurs, pour dire l'honnêteté, c'est l'héritage, puisque du temps de mes prédécesseurs, c'était également le cas. Mais nous-mêmes, on est restés sur cette épure et on est toujours les plus faibles, même quand on paie les impôts, c'est trop. Alors, vous dites que effectivement tout ça va entraîner très certainement une refonte des impôts locaux. Vous savez très bien que c'est un vieux serpent de mer. En France, que beaucoup de gouvernements ont parlé de la réforme des impôts, surtout d'ailleurs pendant la période d'élection. Et après, quand il faut
partir. J'ai même entendu parler à un moment de suppression de la taxe professionnelle.
Voilà, absolument. Un impôt imbécile, disait-on. Mais le problème, c'est le supprimer. Mais l'État a besoin de ressources, et les collectivités aussi, et il faut donc trouver un impôt de remplacement, et c'est là, naturellement, où il y a une difficulté. Ceci dit, dans le cadre du comité Balladur et de la réforme des collectivités territoriales, il y a aussi le financement de ces collectivités territoriales, et il y aura sans doute un chapitre concernant la fiscalité locale. Mais c'est un dossier, naturellement, qui est difficile, parce que remplacer les quatre vieilles par d'autres impôts qui seraient moins vieux, c'est pas une affaire facile, et c'est une affaire sur laquelle tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont pour l'instant reculer, parce que de toute façon, supprimer l'impôt, certes, mais il faut trouver l'argent ailleurs. Tout le problème est là.
Sur cette affaire difficile, est-ce que le Parti Socialiste a quelques idées?
De toute façon, la réforme fiscale, on tarde, un jour il faudra la faire. Martin Malvic a été secrétaire d'État au budget, il avait travaillé, malheureusement il n'est pas resté assez longtemps pour pouvoir la mettre en œuvre, mais la réforme fiscale, elle sera obligatoire parce que les collectivités locales, je l'ai dit tout à l'heure, ont de plus en plus de difficultés financières à pouvoir assumer toutes les tâches dont se décharge l'État. Donc il va falloir un jour essayer de voir comment on peut essayer, mais en essayant de rétablir la vérité sur l'impôt. Faut arrêter aussi de créer des taxes diverses pour essayer de grappiller. Mais donc la réforme, elle est indispensable.
Bien entendu, oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a longtemps que nous la réclamons. Nous, la refonte et la réflexion par un grand débat national, d'ailleurs, qu'on nous a toujours refusé. parce que forcément, ça se sera décidé quand ça sera fait par des experts qui, comme vous le savez, ne se trompent jamais, sauf que ce sont eux qui nous ont toujours trompés, du moins les officiels. Donc je confirme qu'il faudra une vraie refonte de la fiscalité à tous les échelons, oui, bien sûr, et que les idées ne manquent pas.
Des idées ne manquent pas, mais pour l'instant, on ne connaît pas encore
lesquelles.
C'est pas
facile ici, à plusieurs d'ailleurs, de prendre tranquillement.
Eh bien, écoutez, moi, ce qui serait intéressant de creuser, c'est de faire des impôts justes. Monsieur Sarkozy, quand il est arrivé au pouvoir, il a changé les tranches d'imposition de l'impôt sur le revenu, par exemple. Il a baissé les tranches. Or, l'impôt sur le revenu, vous savez que c'est l'impôt le plus juste qui existe en France. C'est l'impôt le plus juste. L'impôt le plus injuste, c'est la TVA. Parce que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, vous payez le même taux de TVA. Ça, c'est complètement injuste. Le seul impôt qui est juste, c'est un impôt qui est proportionnel et qui était bien fait, puisque les tranches étaient bien définies. C'est le seul impôt juste en France, c'est l'impôt sur le revenu. Malheureusement, on s'aperçoit que les tranches des hauts revenus sont abaissées, et c'est pas normal. On paye un impôt au pourcentage de ses revenus. Ça me paraît tout à fait logique.
Pire, on a supprimé un abattement de 20%.
Mais donc, si je comprends bien le PRG, les impôts locaux devraient être assis sur le revenu des résidents dans les collectivités locales.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Bon, ce serait peut-être plus judicieux. Je sais pas, il faut creuser. Là, je parlais de l'impôt sur le revenu, qui a été modifié récemment. Moi, je trouve ça complètement aberrant, parce que pour une fois qu'un impôt était juste, on le supprime.
J'ai interrompu, monsieur.
La CSG, c'est un impôt qui est assez juste, puisqu'il ne taxe que les revenus de placement, etc. Eh si, je suis désolé, mais c'est un impôt qui est plus juste que la TVA.
Tout à fait. Je rejoins tout à fait Monsieur Martin sur nous, ce qu'on dit au Parti Socialiste, c'est un impôt proportionnel progressif. Donc c'est la base de nos projets en matière de fiscalité. Et sur la réforme de l'impôt sur le revenu, on a fait même pire au lieu de modifier les tranches. On a supprimé des abattements de 20%. Et au final, c'est souvent des petites gens qui se retrouvaient avec devoir payer des impôts pour la première fois, alors que jusqu'à maintenant, ils étaient exonérés. Donc la voie, c'est ce qui a été fait, qui a été tenté par le gouvernement, c'est pas la bonne solution. Mais il faut garantir cette progressivité, cette proportionnalité. Et le gouvernement, je pense pas, est en train de faire ça, puisqu'ils sont en train de vouloir supprimer... dans le quotient familial des demi-parts pour ceux qui sont dans des revenus faibles, des familles isolées, tout ça. Donc on est en train de vouloir encore précariser ceux qui sont le plus dans la difficulté.
Oui, moi je lisais avant de venir un article d'Alternative économique qui disait que les 3500 Français les plus riches avaient vu leurs revenus augmenter de 46% ces 5 ou 6 dernières années, alors que la moyenne des Français c'est 3-4%. Donc il y a de l'argent, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de l'argent. Et c'est vrai que l'impôt de revenus qui est progressif et l'impôt le plus juste, si on y supprime aussi toutes les petites niches fiscales qui permettent aux personnes les plus aisées de mettre encore un peu d'argent de côté. Quoi.
Les paradis fiscaux. Tout simplement, il faut parler aussi de la taxe sur les mouvements de capitaux. On s'aperçoit qu'ils sont à l'origine de la crise. J'ai en mémoire les propositions que faisaient les communistes. Bien évidemment, nous sommes archaïques et sectaires, sauf que nous sommes tout à fait dans la tonalité qu'il faudrait tenir. Et je ne veux donner de leçons à personne. Je rappellerai simplement des débats et la possibilité qu'on avait d'instaurer une taxe sur les capitaux spéculatifs, puisque au Parlement européen, elle était possible. Et il y en a qui ont jugé à l'extrême gauche que c'était pas assez. Conclusion, elle n'a pas été instaurée, alors qu'il y avait une majorité de gauche pour la faire voter. Alors, je crois que si cette taxe sur les capitaux spéculatifs...
Il y a des représentants autour de la table de ceux qui ont fait que...
Eh ben, elle n'a pas été votée parce qu'il y a eu quelques abstentions. Il s'est manqué de pas grand-chose au Parlement de Strasbourg pour que ce soit la première fois dans le monde qu'une telle taxe aurait été instaurée et que c'était moraliser l'économie et la politique. Parce que nous sommes dans un monde qui est, sur le plan éthique et humain, devenu insupportable. quand on voit qu'on est en train d'ergoter pour faire croire qu'on ne peut pas instaurer des impôts justes, et qu'on voit les dizaines de milliers de milliards qui circulent de place boursière en place boursière, et que nos propositions, qu'elles soient au national ou ailleurs, sont traitées d'un revers de manche, alors que tout nous donne raison actuellement, je suis assez consterné sur la tenue du débat dans ce pays comme ailleurs.
Là, vous parliez du Parlement européen, d'ailleurs.
Mais national aussi. On ne nous prend pas au sérieux. Les experts nous trompent, se trompent. On nous prend pour des demeurés. Et peut-être M. Roch aussi, d'ailleurs.
Certainement pas.
Parce que je vois qu'à l'Assemblée, ce qu'il faut faire pour qu'on puisse faire entendre la voix des élus autres que ceux de la majorité.
Vous savez, moi, souvent, en conseil municipal, je fais voter la PVR, hein, qui est une participation en voirie réseau. Et je rappelle toujours à tous les élus qui sont autour de la table que cette loi a été initiée par un ministre communiste. Et je rappelle un peu malicieusement parce
nous
que...
Nous n'avons jamais eu que, de Premier ministre ni de ministre des Finances. C'était toujours sous tutelle.
Oui, mais c'était...
Et nous n'avions jamais que trois ministres dépendants de la tutelle d'un Premier ministre. Mais nos lois, quand elles ont été bonnes, on s'est toujours débrouillé pour ne pas les appliquer. Je ne parle pas de la Sécu, ni même de la SNCF créée par le Front Populaire. Parce que la droite n'a jamais rien créé de tel. Par contre, elle sait démolir.
Oui, bon, mais la PVR, c'est vous qui l'avez initiée. Maintenant, tout le monde vote. Mais au départ, les élus socialistes ne votaient pas. Maintenant, ils votent sur cette participation. Bon, mais pour en revenir à...
Il faut peut-être rappeler que la participation à la voirie, c'est lorsqu'on a des extensions urbaines.
Voilà, oui. Et dès qu'il y a une grande surface qui construit un magasin, eh bien, ça nous permet de lui faire payer la voirie.
Ou un particulier qui veut installer sa maison dans les bois, au milieu des bois, à 1 kilomètre de tout réseau. Moi, je pense que c'est normal que le particulier participe.
Oui, voilà. À 1 kilomètre, c'est trop loin. Mais enfin, quand il n'est pas trop loin,
j'exagère.
Pour dire qu'on a... Alors, pour en revenir aux impôts, c'est sûr qu'il faut arriver à des impôts plus justes et que les revenus des capitaux soient plus taxés. On a commencé par le faire et il faut continuer. Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire fuir les capitaux dans notre pays. C'est ça la difficulté. Mais je vous rappellerai quand même que c'est des gouvernements de droite qui ont commencé à taxer, que c'est Sarkozy qui a interdit aux banquiers
leurs
primes de Noël et tout ce qui s'ensuit.
Ils vont se rattraper.
C'est
des mesures qui ont refusé auparavant.
Ils ne sont pas contents.
Ils ne sont pas contents.
Ils ne sont pas contents.
À la télévision, ne vous inquiétez pas.
Ils ne sont pas du tout contents.
Ça ne durera pas d'ailleurs. Dès qu'on aura oublié, ils vont recommencer.
Il y a aussi un gros effort à faire sur les paradis fiscaux qui sont une des causes de la crise financière actuelle et sur lesquelles il faut avoir une action beaucoup plus intense. Et vous savez que Sarkozy a commencé à réunir les pays européens là-dessus, et certains pays comme le Luxembourg ne sont pas venus, ou la Grande-Bretagne, qui a quelques paradis fiscaux dans l'île de Man ou autre.
Même la France, Monaco et l'Andorre.
Mais Monaco et l'Andorre, c'est pas français.
Monaco est en France.
Non, Monaco est un pays, c'est pas français. C'est pas sous la souveraineté, et Jersey, c'est pas français non plus, c'est anglo-saxon. Bon, et je rappelle aussi... Que
Monsieur Sarkozy est co-prince d'Andorre, je vous
rappelle. Oui, certainement. Mais enfin, c'est pas lui qui gère. C'est une fonction protocolaire et décorative, mais c'est pas lui qui gère l'Andorre. Bon. Et parce qu'il est. L'autre co-prince, c'est l'évêque de Saint-Urgel. Et je pense pas que ce soit l'évêque qui. Je crois pas que ce soit l'évêque qui gère l'Andorre non plus. Et je rappellerai aussi que c'est Jacques Chirac qui a instauré une taxe sur les billets d'avion. Cette taxe, il l'a mise en place avec un président qui doit vous plaire, c'est Lula, le président du Brésil. Tous les deux, ils ont été les promoteurs de cette taxe d'avion. Et maintenant, il y a une quarantaine de pays, je crois, qui l'ont adoptée. Et c'est une taxe qui permet, un impôt donc, qui permet de lutter contre le sida ou les maladies infectieuses. Bon. Ceci dit, on a des progrès à faire et pourra pas s'inspirer de certaines idées communistes ou socialistes. Toute idée est bonne à prendre pour amener dans ce dossier-là, plus de justice, plus d'efficacité. La difficulté étant que on n'est pas seul au monde, la France n'est pas seule au monde, et qu'il faut faire attention qu'en taxant trop, on fasse partir ceux qui ont quelques moyens de nos frontières. Voilà. Hein. Et toute la difficulté est là. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais à l'Assemblée, je lisais les journaux belges, et les Belges se plaignaient que les riches Français franchissent la frontière, qu'ils fassent monter le prix de l'immobilier en Belgique, parce que tous ceux qui avaient quelques moyens, et enfin beaucoup de moyens, et ils franchissaient la frontière pour ne pas avoir payé les impôts en France, parce qu'ils estimaient qu'en France, les impôts étaient plus chers qu'en Belgique.
Les financiers ont leur point de vue, mais les peuples et les salariés qui souffrent, on les leurs.
Bien sûr.
Et il faut savoir qu'il n'y a pas que les financiers et les experts pour faire des choix économiques sensés. Et loin de là, on s'en aperçoit actuellement parce que la crise, on n'en est pas au bout. Les mesurettes de Sarkozy, c'est de la poudre aux yeux parce que ce qui va arriver, je le crains fort, c'est qu'une récession en cascade. Et je ne suis qu'un ignorant en économie si on veut aller loin dans les choses, mais je lis. Et c'est ce que je lis chez des économistes qui analysent la situation. Donc pour aller jusqu'au bout, je veux dire par là que au lieu de finalement s'interroger inutilement sur faut-il ou non réformer l'impôt, bien sûr, et ensuite qu'on s'interroge sur où sont les besoins. Et que l'on ne fasse pas croire que les Français craignent, parce qu'on les a, on les a longtemps bercés d'illusions, la fuite des capitaux, elle a lieu actuellement, et elle a lieu, et ça n'a rien à voir avec le taux d'imposition. Et puis, il faut savoir prendre ces mesures, c'est le rôle des politiques.
Mais la France n'est pas seule au monde, elle est dans un système européen.
Monsieur Martin, je me suis quand même demandé la parole depuis déjà un certain temps pour le
coup. Oui, je voudrais juste poser une question à Monsieur Roch. Je veux lui faire un petit peu une analyse au niveau de la bourse. On a parlé tout à l'heure.
Je vais finir par lui donner la conclusion, je vous signale.
Mais c'est non, problème. Mais c'est pas grave, parce que ça vaut le coup quand même. Vous savez, je veux pas vous faire un cours sur la bourse. Vous savez que la bourse, normalement, a été instituée pour gérer les actions et les obligations, des prêts aux entreprises, etc. Est-ce que vous êtes prêt à me dire là aujourd'hui que vous êtes favorable à la suppression de la bourse casino? C'est-à-dire, la bourse casino, ça a été créé par les spéculateurs dans le monde entier pour jouer sur des valeurs de hausse du sucre, du cacao, sur la ruine d'un petit État, sur les indices boursiers, etc. C'est pas ça, la bourse.
C'est pas d'aujourd'hui.
C'est pas ça la bourse. La bourse, c'est la gestion de la valeur d'une entreprise avec un potentiel d'actions, des ventes et des achats d'actions. Quand l'entreprise marche bien, il y a des dividendes. Quand elle ne marche pas bien, il n'y en a pas. Mais la bourse casino, à mon avis, ça devrait être interdit. Et non, puisqu'on va prêter des milliards à des gens qui ne font que ça, qui ne font que jouer à la bourse casino.
On va revenir à la taxe Tobin, là. Oui, on est parti.
La bourse au casino, moi, je sais pas ce que c'est. J'en ai jamais entendu parler. Vous êtes le premier qui m'en parle. Bon, si c'est malhonnête.
On pourrait peut-être revenir au débat du début parce que.
Il faut, non, mais casino, ce que je voudrais dire, c'est que, il n'y a pas, d'économie moderne et prospère sans bourse, mais à ma connaissance.
La bourse
à sa façon, comment dirais-je, est d'intérêt public, parce que si quand même on a dans un pays des entreprises qui se portent bien, qui investissent et qui se développent et qui donnent le bon salaire à leurs ouvriers, eh bien tout le monde y trouve son compte. Donc, des pays sans bourse, on a vu ce que ça donnait aussi.
Sur le niveau de vie. Celle de Paris, qu'on peut appeler de France, était fusionnée avec celle de New York et de Londres.
Oui, les marchés, c'est plus rapide. Comme ça. On peut jouer plus facilement. Alors, au casino, on met des sous dans une machine à sous, et en bourse, on investit sur des indices, des valeurs.
Mais d'ailleurs, c'est rien.
En deux mots, c'est presque une pirouette, mais on nous parle de la bourse casino. Quelqu'un pense du tarif loterie de la SNCF? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre un billet SNCF sur Internet, mais vous avez généralement 10 minutes pour le saisir ou 3 jours. Enfin, ça change, les prix varient, et c'est assez singulier d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un a une pour revenir à un casino et un jeu de hasard?
À tous les gens qui n'ont pas Internet, toutes les personnes qui ne savent pas se servir d'Internet, eux, ceux-là, ils ne peuvent pas jouer. Hein, déjà. Donc, il y a déjà, c'est très inégal pour tous les Français. Je pense que ça marchait très bien jusqu'à maintenant. Il y avait des tarifs qui étaient à peu près justes. Je pense que ces tarifs casino, un peu comme disait M. Martin, je crois que c'est très injuste.
Après, ça fait partie de la stratégie commerciale des grandes lignes, donc qui est des TGV low cost Toulouse-Paris à je sais pas quoi à 70 euros, on peut pas être contre. C'est une bonne chose, sauf que pour revenir et pour parler des ruraux, pour parler des
c'est un peu trop compliqué
sur le rural, ça juste vous posez le problème des réservations en ligne. Le problème, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, c'est que le train qui part train de nuit jusqu'à Paris, de chez nous en Aveyron, eh bien, il est souvent pas inscrit sur Internet. Donc c'est bien, ça montre bien que la SNCF et les gouvernements vont là-dedans. UMP veut se désengager des trains sur le rural.
Demande au gouvernement s'il faut inscrire Villefranche sur le site Internet.
Eh bien, donc, table ovale sans ellipse se termine ainsi. Je recevais ce soir Jean-Louis Calmette pour Les Verts, Lionel Lacroix pour le Parti Socialiste, Angelo Andréotti pour le Parti Communiste, Serge Roch pour l'UMP. Et Francis Martin pour le PRG. Messieurs, je vous remercie. Je remercie les auditeurs de leur attention et je vous dis à dans un mois.